Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide les lundis à 13h et le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Radio Cité et nous vous remercions de nous faire l'honneur d'écouter l'émission Nectar qui œuvre à la défense et illustration des vins genevois, des vins en général. Eh bien, de manière un tout petit peu inusitée, cette émission va commencer par un roulement de tambour qui trouvera explication dans un instant.
Avis à la population.
Voilà, donc avis à la population, vous devinez que nous sommes en présence d'un crieur public. Alors vous vous demandez forcément ce que ça a à voir avec le vin. Eh bien, figurez-vous qu'il existe à Genève, ou près de Genève plus exactement, un vigneron qui est à la fois crieur public et donc qui produit d'excellents vins dans la région de Céligny, Founay et aussi Copet. Donc nous sommes à l'évidence face à un personnage haut en couleur. Bonjour Pierre Mandry, merci de nous recevoir chez vous.
Je vous remercie de vous être déplacé.
Eh bien écoutez, c'est toujours un plaisir de découvrir de beaux paysages. Ici nous sommes en réalité à Essert-sur-Champvent, ce qui est passablement éloigné, peut-être 60-80 km de vos domaines, et nous imaginons que c'est une difficulté de gestion. Nous y viendrons. Pour la question du crieur, voilà. Dites-nous, quel rapport, y a-t-il un rapport entre votre métier de crieur et celui de vigneron? Est-ce que vous faites un lien entre les deux choses?
Alors, théoriquement, les deux métiers sont totalement séparés, mais de fil en aiguille, les choses se sont un peu harmonisées. Premièrement, j'ai tout d'un coup eu l'idée de mettre sur l'étiquette l'effigie du crieur public que je suis. Je suis probablement le dernier de Suisse. Et pour faire une étiquette fantaisie, comme on a l'habitude de voir en Suisse, avec des références soit historiques, soit on met la maison, le domaine, mais de plus en plus on prend des étiquettes originales. Et je fais une sorte de synergie entre le fait que si je suis dans la rue et puis que je fais des annonces, eh ben, les gens peuvent tout d'un coup se rappeler que, ah mais oui, mais il vend aussi du vin, il a aussi son propre vin avec son effigie. Et réciproquement, ça veut dire que si je suis où je suis, ben, les gens disent, tiens, ah bon, je connais son vin, ah mais je me rappelais pas qu'il faisait aussi des animations, on pourrait l'engager pour la fête du village, par exemple.
Voilà, donc vous vous faites connaître et remarquer, parce que des crieurs, il n'y en a pas tant que ça actuellement, vous vous faites remarquer et en somme, vous pouvez acquérir une certaine clientèle de cette façon.
Tout à fait. D'ailleurs, souvent, quand je fais une animation, je travaille dans toute la Suisse, j'ai même été à l'étranger. Oh, j'ai toujours une ou deux bouteilles en réserve. Et à la fin de la prestation, souvent, on déguste. Et puis les gens sont contents. S'ils s'apprécient mon vin, ils me demandent si j'en vends. Et puis évidemment, bien sûr. Et en plus, ça permet de garder des contacts avec des gens qui me connaissent directement.
En somme, comment est-ce que vous avez eu l'idée de devenir crieur public? Parce que c'est étrange, en somme.
Alors bon, en fait, au départ, j'ai quand même tout un passé d'amuseur ou de one-man show. J'ai fait des spectacles sous le nom de l'expérience. J'ai fait des travails de scène, du cabaret, du comique. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de reprendre le rôle d'un crieur public, mais en le déviant légèrement. Parce qu'au village, à Founay, il y avait un monsieur qui s'appelait le Père Schmitt, qui avait, lui, une clochette, par contre, et il annonçait les nouvelles jusqu'à fin des années 60. Ça m'avait marqué. Puis j'ai gardé cette idée en tête et j'ai dit, mais je pourrais monter une animation de rue. Et c'est ce qu'on a fait, créer un duo, accordéon et crieur public. Et on faisait des petits spectacles, des animations, des chansons, des sketchs dans la rue. Et petit à petit, il s'est trouvé que cette activité, elle a pris le dessus presque sur la question de la vigne, parce que mon vignoble est relativement petit, c'est 2,5 hectares, et actuellement, c'est pas possible de faire vivre une famille avec. Alors j'ai monté une équipe qui s'occupe de la vigne, ensuite je fais encaver dans une maison qui vinifie à façon pour les privés, ce qui me permettait de me concentrer plus sur la commercialisation des bouteilles que d'aller faire le travail de gauche et de droite, notamment vu que, comme vous l'avez mentionné, je réside plutôt à Essert-sous-Champvent qu'à Founay.
La question que je me suis posée immanquablement, c'est, en somme, qu'est-ce que vous annoncez? Parce que je peux concevoir qu'il y a deux siècles, il y avait des nouvelles officielles, peut-être des nouvelles de la mairie, apportées à la connaissance de tout le monde. Alors, grand roulement de tambour, les gens se rassemblent, et puis savent ce qu'il y a de neuf. Maintenant, en 2020, qu'est-ce que vous pouvez bien annoncer?
Alors, il y a toujours parfois des annonces officielles, du genre, par exemple, j'ai œuvré plusieurs fois pour les vins de la mise des vins de la ville de Lausanne, qui a lieu chaque année, début décembre, depuis 247 ans, sauf erreur. Et je vais dans la rue annoncer aux gens que la mise aura lieu le samedi, en plus qu'ils sont invités à déguster les vins. De la même façon qu'un crieur annonçait, par exemple, dans le temps, la venue d'un marchand sur la place du village, ou bien qui annonçait la convocation à l'Assemblée Générale de la commune, au Conseil Général, ou des choses comme ça.
J'ai cru comprendre que c'était en somme tout un spectacle, que vous élargissez un peu votre activité, qu'il ne s'agit pas simplement d'annoncer des choses, mais j'ai vu qu'il était question de faux gardes ou faux policiers ou faux sécuritas, et que cette animation, elle prend tout un côté théâtral, peut-être un peu surréaliste même.
Oui, alors le crieur public, c'est destiné principalement à la rue. Après, il y a une deuxième division dans notre système de spectacle, c'est le théâtre caché. Effectivement, là, on œuvre pour des choses plutôt privées, style faux serveur dans un repas, mariage ou repas officiel. Après, effectivement, il y a des faux agents de sécurité, il y a aussi des faux concierges. Et on se mélange aux gens en laissant croire qu'on est... En fait, ce qu'on n'est pas, on est plutôt des amuseurs que des vrais travailleurs qui vont servir les plats. Et c'est une animation comique.
Donc la foule s'amasse comme ça autour de vous et participe en somme.
Alors en fait, avec le théâtre caché, on fait plutôt dans un milieu fermé. C'est-à-dire, il faut que les gens soient là du début à la fin. Du style, pour voir l'évolution des personnages au fur et à mesure... Parce qu'il y a un crescendo. Au début, on a l'air vraiment sérieux et tout, mais petit à petit, il y a des gags qui commencent à se faire, et que les gens remarquent, certains remarquent pas, et puis c'est toujours plus fort. Même, ça prend c'est beaucoup d'improvisation. Parce qu'une fois que les gens ont compris qu'on est là pour faire rigoler, ils nous provoquent et ils nous font un peu... nous faire sortir de nos retranchements.
Voilà, donc spectacle vivant. Vous êtes demandé dans toute la Suisse?
Oui, même à l'étranger.
Même à l'étranger, sur Genève, j'ai pas eu le plaisir d'assister à des prestations, ça se fait quand même.
Alors, problème du théâtre caché, c'est que c'est vraiment quelque chose de privé, pratiquement 90% des cas. Les crieurs, j'ai fait beaucoup de choses à Genève, j'ai fait une fois le premier auto-bastion, j'ai fait... même une version médiévale pour l'inauguration du fort qui a été restauré à Meynier il n'y a pas longtemps. Là, j'étais en crieur public, mais version médiévale, un héros avec un costume d'époque. Et puis, je fais pas mal d'animations dans les rues. J'ai même participé à des campagnes, genre des initiatives populaires pour attirer les gens au stand, enfin, qui viennent signer les papiers.
Voilà, donc dans le domaine du crieur, je pense que vous êtes sans concurrence. Nous allons parler après la pause des vins, et alors là, la concurrence joue, puisque sur Genève, il y a des dizaines de vignerons indépendants et une grande cave coopérative. Fais la pause.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Vous êtes toujours sur Radio Cité. Aristide est au poste, fidèle au poste, et nous sommes en présence de Pierre Mandry, qui nous a déjà fait part de son activité annexe ou principale, je ne sais pas, qui consiste à être crieur public, et puis je dirais aussi acteur, un personnage qui est en somme finalement un homme de théâtre, sans, on peut le dire. Alors, le vigneron produit les vins du crieur. Alors, en somme, quelle est votre gamme d'abord?
Alors, bon, on a une gamme qui part d'entrée de gamme avec du Chasselas, du Gamay, du Rosé de Gamay. Après, j'ai du Pinot, j'ai aussi un œil de perdrix en Pinot, déclinaison. J'ai même une spécialité, c'est que je produis avec le même Pinot 5 vins différents. Donc, j'ai un Pinot noir rouge, un rosé. Je produis un blanc de noir qui a un très grand succès. Et après, il reste un mousseux brut, méthode champenoise, et un autre qui est un liquoreux. Donc, avec un seul cépage, j'arrive à faire quasiment 5 spécialités.
Voilà, vous avez d'autres cépages, bien entendu.
Oui, oui, après, il reste des fionniers, et je suis très, très fier de figurer parmi les 6 ou 7 vignerons vaudois qui cultivent encore l'arsenon, qui est un cépage d'origine gamay, mais qui vraiment n'a pas du tout le goût de gamay, et avec lequel j'ai quand même eu des médailles d'or ou d'argent en concours mondial des gamay de Lyon, par exemple. Et puis après, j'ai plusieurs mousseux. Ça va genre Cerdon Prosecco, avec adjonction de gaz carbonique rosé. Ensuite, j'ai 2-3 vins qui sont mousseux, méthode chopinoise.
Alors, j'ai bien lu dans le petit livre que je vous ai déjà recommandé, 20-20. Il y a d'une part les vins du crieur et d'autre part les vins de la sorcière. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les vins de la sorcière?
Voilà. Alors, quand j'ai commencé les rosés, je me suis dit, tiens, faudrait peut-être s'adresser plutôt à la gent féminine. Et puis, j'ai eu cette idée de prendre une sorcière comme effigie. C'était assez rigolo parce que beaucoup de dames sont venues et puis me disent « Ah, oh, c'est parfait, je suis une vraie sorcière, c'est ce qu'il me faut ». Ou d'autres se réunissent, elles s'appellent les sorcières et puis elles me prennent un carton régulièrement. J'ai aussi eu en Suisse allemande pas mal de réactions parce que c'est aussi l'endroit où la dernière sorcière a été brûlée, Anna Goldi. Comme Glaris, et ça parle quelque part à l'imaginaire des gens.
Oui, c'est ça. Donc les femmes ne l'ont pas mal pris. Donc les vins de la sorcière, si j'ai bien compris, c'est une gamme peut-être de vins doux, de vins liquoreux, c'est une gamme différente.
Oui, c'est surtout les rosés, les mousseux, et puis effectivement la glacière de la sorcière qui est les vins liquoreux.
Voilà. En somme, j'avoue que je ne connaissais pas du tout votre domaine. Et est-ce que vous pouvez en retracer brièvement l'histoire?
Alors, en fait, mon père avait été propriétaire d'un domaine qu'on a entre Céligny, Founet et Coppet. Et bon, petit à petit, il a un peu abandonné, mais il a confié ses terrains à un voisin qui a planté de la vigne. Parce que c'était la grande mutation des années 60, où on commençait à, dans la région, comme à Genève aussi, on peut laisser tomber le bétail et partir plus sur des cultures intensives. Et bon, de fil en aiguille, mon père a arrêté la campagne, et il a gardé les terrains, et puis bon, j'ai décidé de faire changer un pour reprendre le tout. Mais tout s'est pas arrangé comme je pensais, parce que le côté saltimbanque a pris le dessus, et du coup il a fallu, faute de locaux déjà, trouver des partenaires pour encaver, et aussi pour faute de matériel, tracteur, machine, trouver aussi quelqu'un qui s'occupe de la vigne pour pouvoir. C'était parti provisoirement comme ça, et petit à petit, je me suis rendu compte, notamment grâce au conseil de mon ancien prof de gestion de Changeable, M. Ballet, un personnage valaisan truculent, qui m'a dit, mais écoutez, vous allez voir, vous endettez énormément, vous allez pas forcément bien vous en sortir. Et il m'a mis en garde contre le fait que ça représentait quand même plus d'un million et demi d'investissements. Et bon, ben, c'était un peu compliqué.
Donc vous avez trouvé des partenaires, simplement, d'un certain nombre de professionnels, peut-être pour la mise en bouteille, peut-être pour la vinification, bien que vous ayez fait changer un vous-même, vous avez trouvé des partenaires, vous avez constitué un réseau.
Voilà, c'est toute une équipe. Et par exemple, j'ai deux vignerons, ce qui permet à ces personnes aussi d'arrondir leur fin de mois, parce que je leur paye pour leur travail. Donc ça leur permet d'avoir un revenu supplémentaire. Et dans les cas présents, il y a Michel Dutruy, qui est d'une famille de Founay, qui lui fait la production intégrée, donc on a le label Vinatura. Et l'autre partie du domaine est coupée en deux parce que Yvon Parmelin, qui est à Bursin, s'occupe de la question bio.
D'accord.
Ce qui fait que j'ai deux labels sur mon domaine. Et c'est une particularité. En plus, je l'ai sur deux cantons.
Oui, justement, les deux cantons, ça amène une question peut-être un peu conflictuelle, parce qu'il y a toujours eu, dans tout domaine, une rivalité entre le canton de Vaud et le canton de Genève, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, etc. Est-ce que vous l'éprouvez aussi comme vigneron qui produit à la fois genevois et vaudois?
Bah, écoutez, moi, je suis pour...
Pour la paix des ménages?
Notamment, mais... Ce qui se passe, c'est que je suis originaire de Céligny, en fait. Donc, mon grand-père...
Donc, genevois.
Je suis genevois. Sur ma carte d'identité, c'est marqué. Alors que je réside plutôt dans le canton de Vaud. Mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir fait un parcours genevois, maturité au Collège Voltaire.
J'entendais l'autre jour quelqu'un qui me disait « Ah ouais, les Chasselas genevois, c'est pas mal, mais les Vaudois, c'est quand même mieux. » Et c'est vrai que je me rappelle qu'autrefois, dans les bistrots, il y avait le ballon de Chasselas, par exemple, à 2 francs, puis le ballon de Vaudois à 3 francs, voilà. Et est-ce que on peut vraiment dire que les Genevois sont inférieurs aux Vaudois? À mon avis, c'est extrêmement discutable, ça dépend des vignerons, ça dépend des terroirs. Il me semble que c'est une généralité à laquelle on devrait enfin tordre le coup. Qu'en pensez-vous?
Ah ben, je pense que on a prouvé que Genève était parfaitement dans le coup, notamment en glanant passablement de médailles dans des concours internationaux, donc c'est la preuve que les vins sont à la hauteur. Et je dois dire que la façon de vinifier des Genevois a été aussi et surtout la façon d'aborder la diversification, parce que c'est quand même, à part le canton du Valais qui a toujours eu des cépages autochtones ou des spécialités vraiment qui sortent du goût du Chasselas, mais c'est quand même à Genève qu'on a introduit parmi les premiers en Suisse des Merlots, des Chardonnay, des cépages pratiquement inconnus. Et je pense que cette originalité, elle a permis de montrer qu'on peut faire des très bons vins à Genève, y compris le Chasselas, parce que vraiment, il y a des Chasselas de Genève qui sont magnifiques.
Tout à fait admirable. Donc, vous êtes genevois, en tout cas, par le choix d'avoir diversifié vos cépages.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Chers amis, Aristide a le plaisir de se trouver pour l'émission Nectar, en présence de Pierre Mandry, qui est un vigneron extrêmement particulier à découvrir à tous égards. Et voilà, eh bien, il y a pour votre domaine une certaine association avec Michel Pont. En quoi est-ce que ça consiste, en somme, parce que ça peut surprendre?
Alors, en fait, je connais Michel de longue date, puisque nous avons passé la matière au Collège Voltaire ensemble, et on a gardé toujours des relations. Et quand il est venu le championnat du monde du Brésil, Michel m'a demander, mais tu sais, j'aimerais faire quelque chose, je vais quitter la natie, puis j'aimerais faire quelque chose de rigolo, une étiquette pour moi. Ça tombait bien parce qu'en même temps, j'avais organisé dans ma vinothèque qui est en plein centre du village de Founé. On peut même prendre le bus qui va de Copé à Nyon et s'arrête juste devant, donc c'est pratique pour les Genevois à venir me trouver. Et dans cette vinothèque, j'avais fait des expositions et celle-là était prévue avec Raymond Burki, le dessinateur de presse qui est toujours très connu et qui est vraiment bossé beaucoup pour la Julie sur Lausanne, mais aussi il avait fait des dessins magnifiques, un style très très personnel. Et puis j'ai demandé à Raymond s'il voulait faire, il serait d'accord de faire une étiquette. Et on a fait une étiquette rigolote en l'honneur de Michel et on a fait une petite gamme avec de l'assemblage rouge, on a mis un pinot blanc et on a fait encore un camaret barrique et un champagne Michel Pont avec la même étiquette.
Alors là donc, si je comprends bien, ce sont des cuvées qui sont tout à fait distinctes des vins de la sorcière d'une part et des vins du crieur d'autre part.
Alors en fait, pour l'assemblage rouge, oui. Mais les autres, c'était le vin normal sur lequel on mettait l'étiquette. Et par contre, effectivement, pour le mousseux, là, on a fait un pinot blanc qui est vraiment brut, alors que mon mousseux pinot blanc normal, il est plutôt sec, c'est-à-dire légèrement doux.
Est-ce que les gens, ça les attire, en somme, d'avoir une bouteille, je sais pas, pour la déguster avec leurs amis, une bouteille avec la mention de Michel Pont, ou encore une bouteille avec, auteur de l'étiquette, un dessinateur aussi connu que Burki? Est-ce que, en somme, tout ceci intéresse le client?
Oui, alors j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus, effectivement, parce qu'ils aiment le football et que c'était quand même l'entraîneur adjoint de l'équipe de Suisse. Alors plein de gens sont venus quand on a fait le vernissage des étiquettes. Et surtout, j'étais très surpris que beaucoup de gens sont venus pour acheter les étiquettes parce que c'était Burki, même s'ils n'aimaient pas forcément le football. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues. Absolument, ils ont acheté que les étiquettes de Michel Pont, ils n'ont pas pris les autres vins.
Voilà, donc c'était pour la curiosité. On sait qu'il y a des buveurs d'étiquettes, face à quoi nous sommes assez critiques, mais c'est vrai que l'étiquette du vin est tout un art, qu'actuellement on voit des graphismes qui sont tout à fait somptueux, et alors pourquoi pas de la BD ou des choses comme ça. Voilà, donc les étiquettes jouent quand même un rôle, et c'est vrai qu'il y a une certaine fierté à présenter sur la table une bouteille qui est belle ou originale. Voilà. Et alors, j'ai cru comprendre que toute cette opération avec Michel Pont était liée à une bonne œuvre.
Oui, c'est Sport Smile. C'est une association qui lutte pour que les enfants, enfin les jeunes adolescents en surpoids et qui ont des problèmes à s'adapter pour pouvoir faire du sport, parce que souvent ils sont un petit peu mis de côté. Ils organisent des camps, ils organisent des repas avec des diététiciens, des diététiciennes pour aider ces jeunes à pouvoir s'intégrer plus facilement.
Voilà. Donc je suppose que dès lors que un certain bénéfice est destiné à une bonne œuvre, Sport Smile en l'occurrence, donc ces bouteilles sont vendues à un prix un peu plus élevé.
Oui, on a majoré légèrement. Et puis la majoration vient pour Sportsmile et on attend que Sportsmile fasse un gala, malheureusement avec la crise qu'on vit, sanitaire, ça n'a pas pu être possible et je ne sais pas quand ça sera facile de le faire.
Voilà, donc c'est une action qui va se poursuivre dans le temps.
Oui, mais pas longtemps parce qu'il reste quelques bouteilles. Mais ensuite, bon, avec Michel, on a vu que peut-être c'était moins d'actualité et puis que peut-être qu'on va faire autre chose.
Voilà, alors je confisque le rôle du crieur à monsieur Pierre Mandry, et c'est moi qui annonce, donc, si vous voulez quelques bouteilles dessinées par Burki et faites en collaboration avec Michel Pont, et si vous surtout voulez soutenir une bonne œuvre, il reste donc encore quelques bouteilles, et je pense qu'on peut les trouver à Founay. C'est bien ça?
Exactement. Exactement. Au milieu du village, à la vinothèque, dite le garage.
Voilà, le garage. Eh bien, nous terminerons cette émission d'abord en remerciant chaleureusement Pierre Mandry qui nous a fait connaître un domaine qui mérite de l'être. Et puis, je terminerai pour une fois par une citation parce que nous avons perdu cette bonne habitude. Je suis tombé sur Léonard Vinci qui a écrit « Chez nous, les hommes devraient naître plus heureux et joyeux qu'ailleurs, mais je crois que le bonheur vient aux hommes qui naissent là où on trouve de bon vin ». Eh bien, quand j'ai lu cette phrase, j'ai trouvé que c'était une parfaite stupidité, et même venant de Léonard de Vinci, parce que je me disais, bon, ben maintenant le vin, il est mondialisé, dans tous les pays, on s'y intéresse, et de plus en plus. Et puis à la réflexion, je me suis dit, mais non, Léonard de Vinci a extrêmement bien compris ce qui se passait, à savoir que la vigne, en somme, est très liée à la culture, elle fait partie intégrante du mode de vie, et à l'époque, donc, Léonard de Vinci, l'Italien, avait observé simplement que, eh bien, dans sa région, les vins, les gens étaient peut-être plus heureux grâce à, au bon vin, qui est un haut fait de civilisation. Et après, il a fini sa vie lorsque François Ier l'a invité en France, à Amboise, qui est la région des vins de la Loire. Voilà. Donc, Léonard Vinci nous l'apprend, si c'est encore nécessaire, que le vin est extrêmement profondément lié à la civilisation. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, je remercie Pierre Mandry et je vous dis à bientôt.
Et merci à vous et à tous les auditeurs qui m'ont suivi pour cette belle émission.